Radio Prague, les informations.
Au Salon agricole à České Budějovice, le président Václav Klaus a inauguré la fête nationale de la moisson. L'ancienne ville garnison de Milovice commémore le 40e anniversaire de l'occupation soviétique en 1968. Gros contrat pour une firme tchèque au Proche-Orient. Au Salon agricole international La Terre nourricière, qui en est cette année à sa 35e édition, dans la ville de České Budějovice, le président Václav Klaus a inauguré la fête nationale de la moisson. La moisson en République tchèque touche à sa fin. Les cultivateurs ont récolté plus de 90% de blé et ont achevé la récolte de colza. Avec 5,23 tonnes par hectare, le rendement des moissons est supérieur de 0,7 tonnes à celui de l'année dernière. La société tchèque CZMT a signé un contrat pour 700 millions d'euros avec la société Middle East Development, MID, pour les fournitures de technologies destinées à l'édification de cimenteries, de centrales électriques et d'usines sidérurgiques au Yémen et à Djibouti. Les médias tchèques n'ont pas omis de mentionner que MID est une société fondée par Tariq Mohamed Ben Laden, demi-frère du chef de l'organisation terroriste Al-Qaïda. Selon CZMT, quelques 50 firmes tchèques pourraient participer aux fournitures. La ville de Milovice en Bohême centrale, l'une des plus frappées par la présence militaire soviétique, a commémoré samedi le 40e anniversaire de l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du Pacte de Varsovie. Pendant plus de 23 ans qu'a duré le séjour des soldats soviétiques, Milovice a été le symbole et le siège du commandement d'occupation. Le nombre d'habitants a baissé à 2700 et la ville s'est agrandie de près de 20 000 soldats et 10 000 membres de leur famille. Le 30 juin 1991, le dernier soldat soviétique a quitté le territoire tchécoslovaque. Václav Havel n'a pas manqué parmi les spectateurs du plus grand festival de rock en Tchéquie, Open Air Trutnov, qui se déroule jusqu'au dimanche en Bohême du Nord-Est. Surnommé le Woodstock tchèque, la première édition du festival, qui a eu lieu en 1987 comme une manifestation underground, a été brutalement réprimée par la police communiste. La 21e édition du festival est dédiée aux victimes de l'invasion soviétique de la Tchécoslovaquie en 1968. Le pilote français Nicolas Vouillot, volant de sa voiture Peugeot 207 S2000, a remporté la première épreuve du Barum Rallye disputée dans la ville morave de Zlín. Le Barum Rallye se poursuit dans cette ville jusqu'au dimanche. Un ciel nuageux, des températures entre 17 et 21 degrés marqueront la météo de dimanche. C'était les informations avec Yerkagi Sublova.
Rencontre littéraire, Václav Richter.
Le 40e anniversaire de l'occupation de la Tchécoslovaquie par les armées du Pacte de Varsovie a été l'occasion pour la maison d'édition Torst de publier un livre de photographie de Josef Koudelka. Le célèbre photographe y présente un témoignage poignant sur les événements d'août 1968 qui ont mis fin au rêve sur le socialisme à visage humain et ont ouvert deux décennies de vie humiliante dans un pays occupé. Les textes qui accompagnent le livre de Josef Koudelka ont été rédigés, entre autres, par Jiří Suk de l'Institut de l'Histoire Contemporaine. C'est avec Jiří Suk, qui a obtenu en 2003 le prix Magnesia Litera pour un livre consacré à la révolution de 1989, que nous reviendrons sur l'occupation de la Tchécoslovaquie et tâcherons de situer cet événement dans son contexte historique. « L'année 1968 est devenue un grand mythe. Elle l'est toujours, dit Jiří Souk. À son avis, les historiens ont déjà dit pratiquement tout sur cette période, tandis que la révolution de velours, suivie de la chute du communisme en 1989, sont des événements qu'il faudra encore analyser et étudier. En août 1968, le monde entier a tourné les yeux vers la Tchécoslovaquie, un petit pays au centre de l'Europe, et l'affaire tchécoslovaque est devenue l'affaire du monde. Un quart de siècle plus tard, au début des années 1990, il y a eu en Tchécoslovaquie une tentative de démythifier ce mythe et d'interpréter toute la période de libéralisation politique et culturelle appelée le printemps de Prague comme une simple rivalité de deux fractions au sein du Parti communiste tchécoslovaque. Aujourd'hui, de telles simplifications ne sont plus possibles et le mythe de 1968 revient dans toute sa force. Selon Jiří Souk, c'est un des piliers historiques sur lesquels reposent l'identité et le patriotisme tchèque. À son avis, l'occupation a d'abord ressoudé le peuple tchèque.
La semaine du mois d'août 1968
qui a subi l'occupation était une extase de la liberté. Le peuple s'est réveillé, les gens étaient gentils les uns envers les autres, ils cédaient volontiers les places assises dans les trams. Peut-être que cela fait sourire, mais toutes ces choses unissaient les gens. Un des slogans de cette période était « Finalement, nous sommes une nation ». Les gens se sont rendus compte au cours de cette semaine de leur appartenance à un peuple, ils se sont rendus compte qu'ils avaient une histoire. Ils ont commencé immédiatement à comparer les événements de 68 avec le début de l'occupation allemande en 1938. Ils se rendaient compte donc de leur histoire et de leur identité nationale, et en même temps, cela n'a duré que très peu de temps. Parce que, un an plus tard, les mêmes personnes hissaient déjà les drapeaux soviétiques. C'est donc extrêmement paradoxal.
Aujourd'hui, quand nous lisons et regardons les documents écrits et filmés de cette période, nous sommes étonnés par la popularité et la confiance dont jouissait en ces moments historiques le Parti communiste, qui pourtant était déjà gravement compromis par les aberrations des années 50. En août 1968, le parti était considéré comme le garant de la libéralisation politique et ses dirigeants, avec Alexandre Dubček en tête, comme des héros populaires. Jiří Souk explique cette popularité qui s'appuyait sur une grande illusion.
Komunistická strana tehdy zažívala svůj hvězdný okamžik, který trval velmi krátce a který skončil velmi katastrofálně.
Le parti communiste a vécu en ce temps-là son heure de gloire. Cela n'a pas duré et a débouché sur une catastrophe. Ce parti ne savait faire que ce qu'il avait fait auparavant, c'est-à-dire gouverner le peuple d'une façon absolue. Pourtant, en ce temps-là, il avait la confiance des gens. Bien sûr, les gens ne se fiaient qu'aux personnalités du printemps de Prague, Dubček, Smrkovski, Černík, Svoboda, Tissage. Cela ne pouvait pas être autrement parce que ces hommes avaient rejeté l'invasion. Dans la nuit du 20 au 21 août, ils ont rejeté l'invasion lors d'une session du bureau politique. Ils ont été enlevés et internés en Union soviétique. Le peuple, alors, n'avait pas d'autre choix que de les considérer comme ses leaders. Ils allaient tous échouer dans ce rôle de leader, à l'exception de František Kriegel. Mais c'est une autre chose. Le peuple n'avait pas d'autre possibilité que de soutenir le Parti communiste de Tchécoslovaquie et ses dirigeants.
Les effets positifs de la mobilisation de tout le peuple face à l'occupant n'ont pas été de longue durée. Plus grand a été l'enthousiasme du printemps de Prague, plus amer a été le lent dégrisement après l'invasion soviétique, quand il s'est avéré que ni les puissances occidentales ni les institutions internationales n'allaient nous aider et que la Tchécoslovaquie ne pouvait pas obtenir le statut de pays neutre, la réalité tragique d'un pays abandonné est devenue évidente. L'esprit national retrouvé allait bientôt céder place aux intérêts particuliers, au pessimisme, à la lâcheté et à la trahison. Tchécoslovaquie Slovaque, livré à l'arbitraire soviétique, apprenait à vivre sous le régime de la normalisation et s'habituait au marasme moral de leur nouvelle situation. C'est pour s'opposer à cette tendance désastreuse que les étudiants Jan Palach et Jan Zaïts se sont immolés par le feu. Selon Jiří Suk, les conséquences de l'occupation ont été immenses.
Nejsem schopný nějak kvantifikovat třeba hmotné škody, nebo tak ty asi byly veliký.
Je ne suis pas capable de quantifier les dommages matériels, dont les dégâts laissés par l'armée soviétique sur notre territoire, mais les conséquences morales de l'invasion ont été écrasantes. Les 20 années de normalisation qui ont suivi après l'occupation ont beaucoup abîmé ce qu'on pourrait appeler l'âme du peuple. En 1968, le processus de démocratisation était en cours. Des éléments de la démocratie directe ont fait leur apparition. Les gens ont commencé à décider eux-mêmes de leurs affaires et leurs opinions étaient claires. Ils revendiquaient le départ des Russes et aussi le départ de tous les traîtres et des collaborateurs avec l'occupant. Ils désiraient la neutralité, c'était le slogan qu'on voyait partout. C'était comme s'ils se réveillaient pour une conscience démocratique. Et tout cela a été brutalement coupé. Tout cela a eu donc d'immenses conséquences morales qui sont difficiles à évaluer. Mais ce n'est pas impossible. Ce n'est peut-être pas un travail pour un historien, mais plutôt pour un poète qui, seul, serait capable de rendre compte de tout cela.
Nous avons évoqué les événements d'août 1968 avec l'historien Jiří Suk. Cette émission vous a été proposée par Václav Richter. Merci à Irena Viernochová, réalisation technique, et à David Rada, prise de son.
Le Tchèque du bout de la langue. Guillaume Narguet.
Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague.
Ahoj vám všem milovníkům češtiny, Radia Praha.
Aujourd'hui, nous allons revenir sur le thème des plantes pour nous consacrer à l'une d'entre elles, le serpolet, dont le nom tchèque
Mateří douška
provient d'une poésie triste du 19e siècle. Le serpolet, mettons-nous dans l'ambiance. Cette plante aromatique, basse, tapissante, couverte l'été de petites fleurs bleues, soulageant les digestions difficiles et répandant des senteurs de garrigue. L'explication de l'appellation tchèque du serpolet est l'occasion de vous présenter une des œuvres poétiques les plus importantes de la littérature romantique tchèque du 19e siècle.
Kytice. Kytice.
Le bouquet est un recueil de poésie écrit par Karel Jaromír Erben, publié en 1853. Un bouquet de ballades romantiques inspirées de mythes issus de la culture populaire. Maternité et patriotisme, peur et croyance, culpabilité et châtiment, destin et amour tragique. Autant de thèmes traités par les récits habités par des personnages comme
Vodník,
Londin,
Polednice,
La fée de midi,
Holoubek,
Le jeune pigeon,
Věštkyně,
La sibylle, mais aussi
Vrba,
Le sol,
Lilie,
Le lys,
Zlatý kolovrat
et Le rouet d'or. C'est l'ouverture du recueil qui donna son nom tchèque au serpolet. La ballade d'ouverture, le serpolet,
Mateří douška,
conte l'histoire d'une mère qui meurt. Ses enfants, orphelins, visitent sa tombe chaque jour. Écoutons plutôt le début du poème, Précisons que la traduction de ce poème n'est pas la traduction française officielle du poème, mais une traduction personnelle.
Zemřela matka a do hrobu dána, siroty po ní zůstaly. I přicházeli každičkého rána, by matičku svou hledali.
La mère est morte, elle est dans la tombe. Elle a laissé des orphelins, ils y viennent chaque matin chercher leur petite maman. Jusqu'ici, difficile encore de faire le lien avec notre plante aux petites fleurs bleues. Notons la jolie manière d'Erben de nommer la mère
Matička,
soit la petite maman, diminutif de
Matka,
la mère. Écoutons donc la suite.
I zželilo se matce, milý dítek, duše její se vrátila a vtělila se v drobnolistý kvítek, jímž mohylu svou pokryla.
La mère a pitié de ses gentils enfants. Son âme est revenue et s'est incarnée dans la petite fleur aux petites feuilles qui couvraient sa tombe. Le lien commence donc à s'éclaircir. Vous avez peut-être reconnu la petite fleur aux petites feuilles et peut-être même relevé le mot
« duše »,
c'est-à-dire « l'âme ». Écoutez plutôt la clarification.
Poznali dítky matičku po dechu, poznali ji a plesali. A prostý kvítek, v němž majíc útěchu, mateří douškou nazvali.
Les petits enfants ont reconnu leur maman à l'odeur. Ils l'ont reconnue et ont sauté de joie. Et la simple petite fleur, source de leur réconfort, ils l'ont appelée la petite âme de maman. Il faut croire que la maman sentait la garrigue. Quoi qu'il en soit, la formation du mot serpolet,
mateří douška,
apparaît tout d'un coup limpide.
Mateří
est une racine dérivée de
matka,
la mère donc, ou de l'adjectif
mateřský,
maternel. Quant à
douška,
encore un diminutif que vous aurez peut-être reconnu du mot
duše,
relevé dans la deuxième strophe du poème et qui désigne l'âme. Un mystère reste à élucider. Comment les Tchèques désignaient-ils le serpolet avant le poème de Karel Jaromír Erben? Avis aux tchécophiles donc, nous publierons avec plaisir vos suggestions et c'est sur cette question ouverte que s'achève ce Tchèque du bout de la langue. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, portez-vous donc du mieux possible.
Mějte se co nejlíp.
Portez le soleil en vous.
Slunce v duši.
Salut et à bientôt.
Zatím ahoj.
Courrier des auditeurs. Guillaume Narguet.
Dobrý den, bonjour, ou plutôt rebonjour à toutes et à tous, et bienvenue à l'écoute de l'une de vos rubriques préférées consacrées comme chaque fin de semaine aux différents messages, remarques, questions, lettres et autres courriels que vous nous avez fait parvenir ces derniers temps. Et on ouvre cette rubrique avec une lettre signée Monsieur Nasser Chiki depuis l'Algérie. Chers amis, salut à vous tous. Mon absence de quelques mois était due à un problème de santé de mon père malade. J'étais vraiment occupé et je suis resté à son chevet à la maison. C'est triste, mais j'ai commencé à oublier et à penser à l'avenir. Sans perdre beaucoup de temps, j'ai pensé à vous et j'ai de nouveau repris les relations d'amitié qui nous unissent durablement. J'aime beaucoup la Tchécoslovaquie et ses gens aussi. J'aimerais bien apprendre un peu la langue tchèque à partir d'un dictionnaire, mais ici en Algérie, un dictionnaire français-tchèque est quelque chose d'introuvable. J'ai appris l'allemand en suivant les chaînes ZDF et ARD, ainsi que d'autres langues à l'Institut de langues étrangères à Barcelone en Espagne. Recevez cette carte postale d'un paysage de chez nous en Kabylie. En Algérie, c'est l'été, il fait chaud, environ 28 degrés à l'ombre. Heureusement que j'habite au bord de la mer, à 200 mètres de la plage. Merci donc à Nasser Chiki pour ce sympathique message. Nous lui transmettons, nous aussi, toutes nos amitiés et lui souhaitons de bien profiter du soleil en bord de mer. Voilà une chance que les Tchèques n'auront jamais chez eux, et pour cause, puisque, comme vous le savez, la République tchèque ne possède pas de côte maritime et que ses frontières naturelles sont formées de montagnes. Et puisque nous étions sur les bords de la Méditerranée, en Algérie, traversons la mer et arrêtons-nous sur la Côte d'Azur, depuis laquelle Christian Guibaudot, fidèle auditeur s'il en est, nous a fait parvenir ce courriel. Les vacances se terminent et j'ai un peu plus de temps pour écouter la radio entre deux retransmissions des Jeux Olympiques de Pékin. La Tchéquie comme la France peine un peu à gagner des médailles d'or, mais il y a quand même quelques résultats et c'est déjà pas mal. Parlons des Jeux, la Tchéquie va-t-elle envoyer une délégation aux Jeux Paralympiques en septembre prochain ? Trouvez également un aperçu de réception à 13h30, temps universel. La réception est ma foi très correcte, même si l'Afrique du Nord est la cible première. Mais la Côte d'Azur est sur le chemin des ondes, entre la Tchéquie et l'Afrique, n'est-ce pas ? Voilà pour cette fois, à bientôt sur les ondes. Merci donc à Christian, et effectivement, la Côte d'Azur se situe bien entre la Tchéquie et le Maghreb. Pour ce qui est de sa question relative aux Jeux paralympiques qui se tiendront du 6 au 17 septembre prochain, la République tchèque enverra bien des sportifs en Chine. La sélection tchèque sera composée de 56 sportifs engagés dans 8 disciplines. Dans les détails, ils participeront donc aux épreuves d'athlétisme, de bokia, de cyclisme, de tir à l'arc, de natation, de tir, de tennis de table et d'haltérophilie. Enfin, rappelons qu'il y a 4 ans de cela, aux Jeux paralympiques d'Athènes, les Tchèques avaient récolté un total de 31 médailles, dont 16 d'or. Štěstí má, tak jeden ze sta, dojít až tam, kde končí cesta, tam, kde je ráj, malý ráj. Je lepší žít na dohled lesu, lákadel míň a míň těch vašich stresů. Jestli se ptáš někoho na adresu, tak prostě ráj, malý ráj. Vesnice dá. Toujours à propos de vacances et d'olympisme, mentionnons encore le rapport d'écoute de Pascal Salvaudon d'Amboise, en Indre-et-Loire. Je profite de mes vacances pour rédiger quelques rapports d'écoute, dont l'un pour votre station. Habituellement, mon travail m'accapare beaucoup et ne me permet plus de profiter des ondes courtes autant que je le désirerais. C'est toujours avec un grand plaisir que j'écoute votre programme. Vous avez eu un excellent démarrage aux Jeux Olympiques, bien meilleur que les athlètes français, même si au jour d'envoi de ce rapport, ils se rattrapent. C'est avec une grande tristesse que j'ai appris l'accident du train survenu en Moravie. Quels que soient les résultats à venir de l'enquête devant éclaircir les raisons de cet accident, ce sera difficile pour les familles des victimes. Il faut penser à elles. Mais le sport et les Jeux Olympiques n'ont pas été la seule actualité qui a dominé en République tchèque la semaine dernière. Si vous nous écoutez régulièrement, vous avez sans aucun doute noté que le milieu de semaine a été marqué par les cérémonies qui ont accompagné le 40e anniversaire de l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du pacte de Varsovie et l'écrasement du printemps de Prague. Comme le remarque Philippe Marsan qui nous a envoyé un rapport d'écoute, cette fois depuis Gujan-Mestra dans la Gironde, semaine importante pour vous qui commémore l'entrée des chars soviétiques en Tchécoslovaquie en 1968. Un documentaire allemand est diffusé sur la chaîne Arte mercredi soir 20 août intitulé « Prague 1968, la fin d'un rêve ». Le même jour, Radio Prague a consacré l'intégralité de son émission à cet événement, toujours chargé d'émotions avec un rappel des faits historiques, des entretiens ou encore une exposition de photos. D'autres rubriques ont également été consacrées à ce 40e anniversaire et le seront encore dans les jours à venir. Dans un autre rapport d'écoute, Philippe Marsan nous demande comment les Tchèques ont réagi à l'installation des troupes russes en Géorgie et s'ils font un parallèle avec août 1968. Alors effectivement, les médias tchèques ont fait une comparaison des deux invasions de la Géorgie et de la Tchécoslovaquie à l'époque. La question reste toutefois de savoir si les deux situations peuvent être comparées. Pour ce qui est des responsables politiques, le gouvernement et la diplomatie tchèque ont condamné Moscou pour son action militaire, tandis que le président de la République, Václav Klaus, s'est lui une nouvelle fois démarqué en critiquant la Géorgie qu'il estime responsable du déclenchement du conflit. Mais comme vous le savez peut-être, le chef de l'État adopte régulièrement des positions personnelles qui ne correspondent pas forcément à celles du gouvernement ou du ministère des Affaires étrangères. Enfin, avant de nous quitter, remercions encore pour le rapport d'écoute Jean-Marie Monplot de Chambéry, en Haute-Savoie, tout comme Johan Jean de Cran-Gevrier, Fabien Battesti de Lambersart dans le Nord, Michel Harly de Barbazan-Debat dans les Hautes-Pyrénées, et enfin en Afrique, Émile Christian Duchim, qui nous écrit de Yaoundé au Cameroun, mais est originaire du Rwanda, Rassem Ben Brahim de Gabès en Tunisie, et Abdelkarim Najim de Taounaté au Maroc. Et merci donc encore à toutes et à tous de votre fidélité à Radio Prague et à très bientôt sur les ondes. En attendant de vous retrouver, c'est la fin pour aujourd'hui du programme Langue française de Radio Prague. Rendez-vous dès demain, même heure, même fréquence ou sur internet au www.radio.cz. Ahoy!
Sám, kdo ti to dnes dá, našli jsme ráj, pravý ráj. Vesnice dál, poklidně přijímá, obětný lány zlátnou nám. Všechno tu má, mírné klíma, do města zpátky já nespěchám. Tolik se zbál zubů a trápů a všeho zlého, co se může stát. Zdál víc mohl psát.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours